les autres nous voient. Et là, je vous renvoie tout particulier à ce bouquin remarquable de Richardot, Le peuple protestant français, qui a fait une enquête précisément sur ce sujet, comment le protestantisme est perçu dans la société française. Et ce qui ressort, tout d'abord, d'une manière quasi générale de cette enquête, c'est que le français moyen regarde le protestant français avec sympathie. Ça peut paraître tout à fait étonnant. Finalement, ça ne l'est pas. Quand on se réfère au sondage auquel nous avons fait allusion la dernière fois, qui considère que 2 millions de Français se disent proches du protestantisme. Bien entendu, dans ces 2 millions de Français, il y a une partie importante qui ne sont pas protestants, mais qui se disent proches du protestantisme précisément à cause de cette sympathie, ce courant de sympathie générale que le français éprouve pour les protestants français et pour les protestants français uniquement. Richardot a noté que le protestantisme étranger ne jouit pas du tout de la même sympathie au sein de la population française. Le français aime ses protestants, mais pas les autres protestants. Voilà un petit peu la situation paradoxale à laquelle nous sommes confrontés. Alors, quand on sait comment les querelles religieuses ont été âpres dans notre pays, on peut se demander comment, en l'espace de quelques siècles, même pas, l'évolution s'est faite d'une hostilité très importante, comment est-on passé justement à une situation de sympathie? Et quelles sont les raisons de cette sympathie? Et la première raison que Richardot note, c'est que nous sommes dans un siècle, finalement cette sympathie ne date pas de bien longtemps, ça remonte simplement à quelques dizaines d'années en arrière, et ceci parce qu'il y a une évolution au sein des mentalités où aujourd'hui, les questions religieuses n'intéressent plus le français moyen. Par contre, ce qui est important aujourd'hui, ce qui est la grande affaire de notre société moderne, ce sont les questions politiques. Et c'est pourquoi le centre du débat national se trouve déplacé de la question religieuse à la question politique. Et le protestantisme français, qui encore au début du siècle était regardé avec suspicion, maintenant jouit de cette évolution des mentalités. Richardot note un certain nombre de traits qui sont considérés comme généraux par les Français moyens. En fait, le Français moyen connaît mal le protestantisme et les protestants. Ils en ont une idée souvent qui est stéréotypée, qui appartient aux images d'Épinal et qui repose sur un certain nombre de grands traits. Finalement, ce qui caractérise le protestant dans l'esprit du français, c'est souvent que c'est quelqu'un qui appartient à la HSP, c'est-à-dire la haute société protestante. Les protestants sont un petit peu rapprochés, si vous voulez, des juifs à ce niveau-là. Ce sont des banquiers. Pour beaucoup de gens, les protestants sont tous des banquiers, comme tous les juifs sont des Rothschild, à peu près. On fait allusion constamment aux grandes banques protestantes, aux grands commis du régime protestant, aux officiers de marine protestants, qui effectivement sont en proportion relativement importante, mais qui évidemment sont loin de représenter l'ensemble du protestantisme français. Ce qui est souvent une raison de la sympathie du français pour le protestant, c'est alors là, entre guillemets, les protestants se marient. Les protestants, attendez, les pasteurs. Parce qu'on pourrait dire aussi que les catholiques se marient, mais pas les prêtres. Et alors ça c'est vraiment quelque chose de très très important dans l'esprit du français moyen. Savoir que les pasteurs se marient, alors ça c'est vraiment ce qui les rend sympathiques. Et finalement, quand on demande aux Français, à beaucoup de Français moyens, qu'est-ce que c'est qu'un protestant, ce sera la réponse, c'est quelqu'un qui se marie. Richardot a noté ça avec beaucoup d'humour. Sous-entendez les pasteurs. Alors ça, ça change tout, immédiatement. Alors, ce faisant, ils sont considérés comme plus équilibrés que les catholiques. Et la religion protestante est considérée comme plus proche des hommes, plus normale, plus naturelle. Un certain nombre de prises de position de la Fédération protestante, en ce qui concerne l'éthique sexuelle et familiale, par exemple, ont aussi contribué à cette image de marque du protestantisme, pas toujours d'une manière qui est tellement recommandable, qui est tellement biblique. Par exemple, il est vrai que dans le domaine de l'éthique sexuelle et familiale, le protestantisme est souvent beaucoup plus libéral que le catholicisme. Je pense par exemple à des questions comme l'avortement, l'homosexualité, la contraception, enfin bref, tous ces grands débats qui sont au centre aujourd'hui des préoccupations de beaucoup de Français de notre temps. Le fait que le protestantisme ait pris un certain nombre de positions libérales à ce niveau-là a contribué à le rendre sympathique aux yeux d'une grande partie du public français qui est souvent extrêmement laxiste. Et si il y a 2 millions de gens qui se disent proches du protestantisme, ce n'est pas parce que ce sont des gens qui trouvent que l'Évangile est prêché avec beaucoup plus de pureté dans le protestantisme que dans l'Église catholique, mais ils sont attirés précisément par cet aspect du libéralisme protestant que nous, en tant que chrétiens évangéliques, très souvent nous dénonçons. Alors, c'est pourquoi lorsqu'on parle de cette sympathie dont jouit le protestantisme en France, il faut relativiser. Ce n'est pas une sympathie dont on a toujours lieu de se réjouir, loin s'en faut. Les protestants sont aussi considérés comme beaucoup plus concrets que les catholiques, beaucoup plus engagés dans les affaires de la cité. Une autre image de marque aussi que Richardot note, c'est que les Français ignorent le nombre de protestants. Et souvent, ils pensent qu'il y a beaucoup plus de protestants qu'il n'y en a en réalité. C'est ainsi que quand on demande à un Français moyen à combien il estime le nombre des protestants en France, ça tourne autour de 6 ou 7 millions dans l'esprit des gens. Alors que, bon, je crois que si on part en comptant très large sur la base d'un million, je crois qu'on n'est pas loin de la vérité. Vous voyez ? Il y a donc une influence du protestantisme français qui est hors de proportion avec son importance numérique. Et ça, c'est tout à fait intéressant à noter. Ça vient de ce que le protestantisme a la possibilité de s'exprimer par la radio, par la télévision, par les journaux, par ses organes officiels que sont la Fédération protestante. Et cela donne au protestantisme un poids qui n'est pas en proportion avec son importance réelle. Ensuite, le protestant, il y en a certains qui vont jusqu'à dire 10 ou 20 millions. Certains pensent qu'il y a même 20 millions de protestants, enfin c'est l'exception quand même. Mais trouver des réponses en disant 10 millions de protestants en France, c'est pas rare. Encore là, quand j'étais cette semaine avec le représentant en France des LAL, qui est un juif français, lui aussi croyait qu'il y avait autour de 10 millions de protestants français. Il se plaignait amèrement qu'il n'y avait pas plus de voyages qui étaient organisés, de voyages touristiques, pèlerinages, comme il disait, qui étaient organisés par le protestantisme. Il y a beaucoup plus de catholiques qui organisent des pèlerinages qu'il y en a de protestants. Je lui dis, mais monsieur, c'est tout à fait logique. Nous sommes extrêmement minoritaires. Enfin, quand même, il dit en proportion, ça ne correspond pas. Je lui dis, mais en proportion, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous savez qu'il y a à peine un million de protestants en France? Il me dit non. Je croyais qu'il y avait au moins 6-7 millions de protestants, mais je dis non. Il l'apprenait, n'est-ce pas? Alors, voilà, si vous voulez, comment les choses se présentent à ce niveau-là. D'autre part, le protestantisme est souvent aussi considéré est synonyme pour beaucoup de gens de liberté. Là où le catholicisme est perçu dans sa hiérarchie, dans les prises de position tranchantes, le protestantisme est considéré comme une religion de liberté. Et c'est ce qui la rend sympathique à beaucoup de Français. Quand nous disons religion de liberté, il y a deux choses. D'une part, il y a le libéralisme en matière de mœurs que nous avons dénoncé, qui lui alors est tout à fait regrettable, et qui est placé sous ce vocable de religion de la liberté. Et puis il y a aussi, à un degré moindre, hélas, la véritable liberté de la Bible, n'est-ce pas? C'est celui d'être un chrétien qui est responsable devant Dieu et qui n'est pas soumis à une hiérarchie humaine comme l'est l'Église catholique. Un certain nombre d'images du passé demeurent, par exemple l'austérité protestante. Quand on connaît les milieux protestants réformés en particulier, il y a de quoi rigoler. Quand on parle de l'austérité protestante, il n'y a qu'à voir la Feuve, par exemple, pour voir où on en est dans cette austérité-là. Mais il n'empêche qu'il reste malgré tout, chez les grands bourgeois protestants, dont certains sont actuellement au gouvernement, par exemple, et qui ne sont pas particulièrement austères dans leur vie privée, que je pense à des gens comme Jospin ou autres, mais la présentation de ces gens-là porte quand même les vestiges du passé à ce niveau-là. Ce sont quand même des gens qui ont une certaine prestance qui accrédite encore cette image de marque de l'austérité protestante. Les protestants sont aussi considérés comme le fer de lance de tout ce qui touche à l'éducation. On a considéré, et on considère dans la société française, non sans raison, que les questions d'éducation ont toujours été le grand pôle d'intérêt du protestantisme français. Et ça, c'est vrai. L'école laïque républicaine et obligatoire était l'école des protestants. Ce sont les protestants qui ont forgé cette idée et qui l'ont mise au point dans le cadre de la Troisième République. La plupart des familles protestantes ont des ancêtres, des générations et des générations d'ancêtres qui ont été enseignants depuis l'époque de Jules Ferry jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, les protestants sont aussi en pointe dans le domaine des recherches sur l'éducation, mais là aussi, hélas, pas dans le bon sens. Ils sont considérés comme étant une sorte de laboratoire expérimental de tout ce qui est en pointe dans le domaine justement du laxisme moral, tout ce que nous avons pu voir dans la FEUF. Et la FEUF, ou bien les unions chrétiennes de jeunes gens, la FEDE, enfin les mouvements de jeunesse protestants en général, sont souvent les plus corrompus, les plus pourris, n'est-ce pas, par tout ce que nous voyons aujourd'hui se mettre en place dans notre société. Et ce n'est pas pour rien non plus que le gouvernement actuel contient une très très grande proportion de ministres protestants qui sont dans cette voie-là et dans cette veine-là. Voilà donc, si vous voulez, comment le protestant voit le français. Le français voit le protestant, pardon. Le doyen Carbonnier, qui est donc un juriste protestant de très grand niveau, concluait en disant ceci: les protestants sont aimés dans la mesure où ils sont une micro-minorité. Et voilà, ça, je crois, c'est une réflexion importante. C'est parce qu'ils sont si peu nombreux qu'ils sont sympathiques. C'est parce qu'ils sont quasiment, sur le plan numérique, au seuil au-dessous duquel ils sont condamnés. Un groupe sociologique est condamné à disparaître. Eh bien, le protestantisme français est exactement dans ces eaux-là. Et il apparaît en quelque sorte, aux Français moyens, comme une sorte de vestige, une sorte de fossile d'une réalité qui a été redoutable à une certaine époque, et qui maintenant est totalement inoffensive. Par exemple, la fête que nous organisons, pour La Roche-Bernard, la réaction de la population de La Roche-Bernard est tout à fait typique de cet état d'esprit. Il y a des années, des dizaines d'années, qu'il n'y a plus de protestants à La Roche-Bernard. Et voilà que la municipalité de La Roche-Bernard a proposé, autour de cette fameuse chapelle de Notre-Dame, de consacrer un week-end tout entier pour que les protestants fassent dans cette chapelle ce qu'ils voudraient. Pourquoi ? Parce que ça appartient à l'histoire, ça appartient au folklore local, à tout un passé, etc. Mais le protestant réel, le protestantisme réel, n'est pas sympathique en soi, mais tout simplement parce qu'il appartient au passé. Alors ça, c'est inquiétant. Parce que finalement, dit Carbonnier, jouir d'une sympathie parce qu'on est une micro-minorité, ça veut dire tout simplement, eh bien, accepter de renoncer à sa vocation. Car qu'est-ce que c'est que la vocation du chrétien en général? Eh bien, c'est de se développer, c'est de s'étendre. Et Carbonnier dit, que se passerait-il si dans quelques années, quelques dizaines d'années, à la suite d'un réveil, le nombre des protestants français, qui est, disons, pour reprendre le sondage ici, de 2 millions en comptant vraiment tous les marginaux possibles et imaginables, eh bien, passer justement à 5 ou 6 millions, comme la plupart des Français pensent que c'est. Eh bien, peut-être que justement l'image à ce moment-là, favorable que le Français a du protestant, se transformerait à ce moment-là, dit Carbonnier. Et ceci, évidemment, n'est pas du tout impossible. Ce qui est aussi intéressant de noter dans ce sondage, c'est que les Français s'intéressent aux protestants sur le plan sociologique, sur le plan historique, sur le plan politique, parce que aussi le protestantisme est souvent en pointe dans un certain nombre d'options politiques, n'est-ce pas ? Mais ils ne s'intéressent absolument pas aux croyances et aux doctrines des protestants. Ça, c'est quelque chose de tout à fait notable. Il y a même, note Richardot, un refus total des Français de se pencher, de s'intéresser aux doctrines des protestants. C'est presque viscéral, dit Richardot, et c'est presque instinctif. Et en creusant plus loin, justement, ce refus, Richardot arrive à la conclusion suivante. Le protestant est dans l'esprit du français ce qu'il aurait aimé être, et ce qu'il ne peut pas être à cause d'une histoire, en quelque sorte. Et s'intéresser de trop près aux protestants, les connaître en profondeur, serait une telle remise en question que le français moyen ressent instinctivement, eh bien qu'il claque la porte pour éviter cette remise en question. Et la conclusion de Richardot, c'est que précisément, le protestantisme français pose une question dans la société française à la fin du XXe siècle. C'est une interpellation pour la société en général, parce que elle lui montre ce que la société française aurait pu être si l'histoire avait suivi une autre évolution et si le protestantisme n'avait pas été étouffé, écrasé, comme il l'a été il y a quelques siècles. Ça. Et Richardot fait ici un parallèle avec une étude extrêmement approfondie de Pierre Fitte, qui est parue il y a quelques années, qui s'appelle « Le mal français ». Pierre Fitte, ancien ministre du gouvernement du général de Gaulle, ancien garde des Sceaux sous Giscard d'Estaing, est un homme qui est arrivé à la conclusion que un des maux dont souffre la société française de tous les temps, c'est le centralisme. Centralisme sur le plan politique. Il suffit de regarder une carte de France pour voir que toutes les routes convergent vers Paris comme une gigantesque toile d'araignée, que toutes les voies de chemin de fer convergent vers Paris, que le moindre fonctionnaire ne peut pas prendre dans une région reculée, la Corse ou n'importe où, la moindre décision sans en référer à Paris. Bref, tout se trouve concentré dans cette espèce de capitale tentaculaire et omnipotente où toutes les décisions se prennent. Et malgré la révolution de 89, malgré l'évolution démocratique qui marque la société française, le centralisme fait que finalement la démocratie n'est pas aussi totale, dit Pierre Fitte, dans notre pays que par exemple dans les pays anglo-saxons. Il reste cette espèce d'état d'esprit d'en référer constamment à l'autorité supérieure, qui était au départ celle du roi, évidemment avec le point culminant en la personne de Louis XIV, la monarchie absolue, mais finalement aussi qu'on retrouve à l'époque de la République dès 89 et finalement jusqu'à nos jours. Et cette situation fait que l'initiative individuelle est presque systématiquement étouffée dans notre pays, que un certain nombre de génies, que ce soit sur le plan scientifique, technique, littéraire ou autre, sont souvent obligés de s'expatrier, notamment aux États-Unis, pour pouvoir réussir. Et ceci parce que, justement, il y a cette espèce de carcan étouffant du centralisme français. Or, d'où vient ce centralisme? D'où vient cette mentalité centraliste qui est la marque de notre pays? Pierre Fitt, qui est catholique, n'a pas peur de dire du catholicisme. C'est le catholicisme romain qui a donné cette vision pyramidale de la société française, de la même manière que l'Église catholique est organisée de manière pyramidale. Et Richardot reprend cette thèse en disant qu'il y a parallèle, qu'on le veuille ou non, entre les croyances religieuses et puis les institutions. Les institutions sont le reflet des croyances religieuses de la majorité du pays. L'institution catholique est une institution hiérarchisée, centralisée. La France, pays catholique, se trouve bâtie sur le plan institution exactement sur ce modèle-là. Le protestantisme, au contraire, de par son essence même, est décentralisé. En quelque sorte, chaque église a son autonomie propre. Et ce qui est la marque du protestantisme, c'est le fédéralisme, au contraire. Mais le pouvoir est à la base. Il y a l'autonomie interne, même par exemple dans des églises qui sont beaucoup plus hiérarchisées, beaucoup plus centralisées que les nôtres, par exemple, qui sont tout à fait le reflet de cette vision-là. Mais par exemple, même dans l'église réformée ou l'église luthérienne, il y a une beaucoup plus grande autonomie des paroisses, comme ils disent, qu'il y en a par exemple dans l'église catholique. Ça, c'est absolument indiscutable. Les plus élevés, n'est-ce pas, ne sont en fait que des délégations de pouvoir qui leur sont accordées par la base. Et cela, dit Pierre Fitt, se retrouve aussi sur le plan des institutions dans les pays protestants. C'est dans les pays protestants qu'on trouve la véritable démocratie. C'est dans les pays protestants qu'on trouve la véritable décentralisation et qu'on trouve le véritable fédéralisme. Le cas le plus caractéristique, on pourrait prendre quelques exemples, les États-Unis par exemple, qui ont été fondés sur cette vision de base, mais peut-être l'exemple le plus parfait de ce parallélisme entre croyances et institutions sur le plan de la décentralisation, de l'autonomie et de la démocratie, c'est la Suisse. La Suisse qui est un modèle du genre à ce niveau-là. Et Richardot dit « voilà ce que la France aurait pu être ». La France aurait pu être ça. Et le français garde une certaine nostalgie de ce chemin, finalement, qui n'a pas été pris. Il souffre de ce mal français dont il ne parvient pas à se débarrasser. Et la sympathie qu'il éprouve pour le protestant vient de ce que, précisément, les institutions du protestantisme, le protestantisme français, lui montrent ce qu'aurait pu être la France tout entière. Mais encore une fois, ça ne concerne que les institutions et pas les croyances. Les croyances seraient une remise en question trop grande. Alors il y a refus d'étudier les convictions des protestants français. La sympathie, finalement, dont jouit le protestant, vient de l'indifférence religieuse du peuple français. Les doctrines que professent les protestants, pour la majorité des Français, sont totalement dépourvues d'intérêt. Et paradoxalement, il n'y a que chez certains catholiques que ce que professe la foi, que professent les protestants, présente un intérêt dans la mesure où les catholiques les plus en pointe considèrent le protestantisme, encore une fois, comme un laboratoire de recherche de l'Église de demain, d'un certain nombre de choses qui ne peuvent pas se faire en milieu catholique, parce que l'institution ne le permet pas, mais qui méritent d'être tentées, des expériences qui méritent d'être tentées, et qu'ensuite, on pourra peut-être réadapter au sein de l'Église catholique, disons récupérer au sein de l'Église catholique. Et dans l'œcuménisme, ça c'est quelque chose que nous voyons tout à fait. Prenons par exemple le cas du réveil charismatique. Bon, le réveil charismatique ne pouvait pas se développer à l'intérieur de l'Église catholique, c'est évident. Mais lorsque un certain nombre de catholiques se sont penchés sur le réveil charismatique en milieu protestant, ils se sont dit, tiens, voilà une expérience intéressante, avec des excès, avec des choses qui sont discutables, etc. Mais on peut le réintégrer au milieu catholique. On peut récupérer cette expérience pour revitaliser l'Église catholique. Ou pour revitaliser dans leur vision à eux l'Église tout court, puisque l'Église catholique, c'est l'Église. Il n'y en a pas d'autre. Et c'est pourquoi on entend très souvent dire dans les rencontres œcuméniques, où parfois certains protestants, dans des grands envolées lyriques, disent « il est temps de refermer la parenthèse de la réforme », on entend ça parfois. Certains catholiques disent « la refermez pas trop vite, on a encore besoin de vous ». Ça, c'est typique. Voilà, si vous voulez, comment cela se présente au niveau du catholicisme. Toujours pour le peuple français, 9 Français sur 10 n'ont jamais entendu parler de la Fédération protestante. Ils ne savent pas ce que c'est. Bien entendu, inutile de leur parler des dénominations protestantes, réformées, baptistes, luthériens. De plus en plus, avec l'abandon de l'étude de l'histoire, les jeunes Français, les jeunes générations, ignorent même qu'il existe des protestants. Ça commence à se voir. Et ça commence à se voir de plus en plus. Alors c'est pourquoi il est vain, tout à fait vain, de se définir en tant que évangélique, réformé, baptiste, ou tout ce qu'on voudra, surtout dans le contexte actuel avec les sectes, parce qu'immédiatement, pour le français, baptiste, évangélique, réformé, c'est égal secte. Il y a catholique, protestant, point. C'est pourquoi il est extrêmement important, en face du français moyen, de se définir d'abord comme protestant. Et puis pour ceux qui sont un petit peu plus évolués que la moyenne, si j'ose dire, dans la connaissance du monde religieux, et qui demandent à un protestant, mais de quelle tendance? Alors là, on peut à ce moment-là expliquer. Mais il est vain autrement d'essayer de se définir d'abord comme évangélique, ou d'abord comme réformé, ou d'abord comme ceci ou comme cela. Là, c'est totalement tapé à côté. Même le fait, disais-je tout à l'heure, que de se référer à la Fédération protestante pour le français moyen n'a pas grande valeur. La référence à la Fédération protestante vaut pour les pouvoirs publics, qui, eux, traitent avec la Fédération protestante et ne connaissent du protestantisme que la Fédération protestante. Et pour le français moyen, ça n'a finalement pas grande valeur. Les protestants sont considérés comme des gens discrets. Et ça, c'est aussi une grande qualité qu'ils ont. Peut-être qu'il n'est pas une des choses dont nous avons à nous réjouir. Enfin, il ne faut pas non plus être trop tapageur. Il y en a qui se seraient un petit peu de trop. Mais ils sont tellement discrets, finalement, qu'ils disparaissent. Hein. Alors, cette vision qu'ont les Français du protestant est extrêmement intéressante. Parce qu'elle permet, justement, de se situer dans la société française, et elle permet en même temps de savoir comment aborder, comment rendre témoignage. Je crois que le fait que le protestant jouisse d'un capital de sympathie, même si ces sympathies ne sont pas toujours basées sur des raisons qui sont tout à fait valables, est tout de même un point de départ intéressant, un point de départ important dont on peut se servir justement dans le témoignage. Il s'agit par conséquent de comprendre également jusqu'où va cette sympathie. et ne pas croire que cette sympathie est acquise d'une manière inconditionnelle et d'une manière totale. Et notamment, cette sympathie disparaît très souvent lorsque le protestant sort de cette discrétion, lorsqu'il sort de cet effacement que la société française lui assigne, autrement dit, lorsqu'il retrouve sa vocation de témoin. Le protestant est aimé, il est toléré, à condition qu'il se taise, en quelque sorte. À condition qu'il s'efface, à condition qu'il disparaisse. Mais il est certain qu'à partir du moment où il entre dans une autre voie, alors il y a quelqu'un qui dérange, il y a quelqu'un qui agace. Et je disais encore tout à l'heure, il pose une question. Il pose une question que le français ne veut pas recevoir. Une question que le français ne veut pas entendre. Et à partir du moment où il la pose, d'une manière claire, alors il n'est plus aussi sympathique que cela. Maintenant, voyons un autre point, si vous le voulez. C'est quel est l'avenir du protestantisme sur le plan sociologique dans la société française ? C'est un avenir menacé. 1% de la population française, c'est le seuil minimum, disait tout à l'heure, au-delà duquel, selon les lois sociologiques, une minorité est condamnée à disparaître. Elle est condamnée à disparaître parce que elle n'a plus la possibilité, non pas simplement de s'étendre, mais de subsister par le jeu, par exemple, des mariages et autres. À partir du moment où une minorité tombe au-dessous d'un certain seuil, elle ne peut plus pratiquer de mariage à l'intérieur du groupe, elle est obligée de se marier avec des gens qui sont à l'extérieur du groupe, et qui étant donc la majorité, automatiquement va la restreindre et la réduire de plus en plus jusqu'à sa disparition totale. Voilà comment se trouve actuellement le dilemme du protestantisme. Ce dilemme est aussi aggravé par une autre raison, une autre situation, c'est qu'il y a ce qu'on pourrait appeler une véritable diaspora protestante. Diaspora, d'un mot grec utilisé pour le judaïsme, d'une dispersion protestante. Il y a eu, jusqu'à la fin du siècle dernier, au début de ce siècle, un certain nombre de grands réservoirs protestants. Nous en avons parlé. L'Alsace-Lorraine, qui a encore cette fonction. Le Languedoc, Roussillon. Le Poitou. Bref, un certain nombre de grandes régions où on trouvait des minorités protestantes relativement importantes. D'autre part, ces minorités protestantes étaient essentiellement des minorités rurales. Il y avait des terroirs protestants, des villages protestants. Notre siècle a vu deux choses à ce niveau-là. D'une part, le phénomène de l'urbanisation et par conséquent de l'exode rural. De l'exode rural qui a joué pour toutes les couches de la société française, protestantes ou non, dans ce sens que les jeunes quittaient les campagnes pour venir travailler dans les villes. Et on pouvait penser qu'au niveau protestant, on pourrait transplanter dans les villes les paroisses rurales qui étaient ainsi déracinées. En fait, ce n'était pas si simple. Ça n'était pas si simple parce que dans son village, le protestant formait un groupe cohérent, un groupe uni. Parachuté dans la ville, il ne trouve plus ce milieu cohérent et uni. Et pour peu que la foi ne soit pas à la hauteur de la situation, il y a tout simplement disparition, dilution dans la masse, dans l'incroyance. L'incroyance qui est aussi la marque des sociétés urbaines. On a l'habitude de dire que le breton perd la foi en débarquant à Montparnasse. C'était vrai aussi pour le protestant. D'autre part, le protestantisme étant déjà minoritaire, il se trouvait dispersé dans des grandes villes, pas dans les mêmes villes, vous comprenez ? Avec le brassage de population qui s'opère, il y a une dissémination où on trouve, par exemple, deux ou trois familles dans une ville, deux ou trois familles dans une autre, etc., qui rend toute vie culturelle, toute vie spirituelle impossible. Automatiquement, il y a aussi perte de la foi, au bout d'un certain nombre d'années. Enfin, il y a le fait que cette micro-minorité qu'est le protestantisme se trouve confrontée avec des courants idéologiques qui la marginalisent, qui la réduisent et qui font que il n'y a plus de région véritablement protestante aujourd'hui, si ce n'est l'Alsace-Lorraine encore. Département concordataire. À cela s'ajoute un certain nombre d'autres facteurs culturels, tels que, par exemple, la perte de la mémoire collective. Sur le plan sociologique, un groupe ne peut pas exister s'il n'a pas une mémoire collective. Et ça, les Juifs l'ont bien compris. Les Juifs qui se sont trouvés souvent dans cette situation dans laquelle se trouve le protestantisme français et qui, malgré tout, ont réussi à subsister, grâce justement à la mémoire collective. Un des grands slogans qui revient constamment dans le judaïsme, c'est « Souviens-toi ». Toute la religion juive est centrée justement sur cette réalité du souvenir. Ce souvenir du fait que l'on appartient au peuple de Dieu, héritier de toute cette histoire extraordinaire qu'est l'histoire de la Bible, et qui a permis au peuple juif de garder dans son exil, dans ses vicissitudes, une certaine conscience d'être un groupe homogène. Le protestantisme français n'a pas le même privilège. D'abord parce qu'il a une histoire beaucoup plus récente. 400 ans d'histoire, c'est peu. Et bien qu'il y ait eu des hauts faits qui pouvaient être en quelque sorte la base d'une sorte, comment pourrait-on dire, d'une chanson de geste, oui, d'une geste protestante, les hauts faits des martyrs, l'œcuménisme a mis un coup sensible à cela. Parce que dans le contexte œcuménique, pour ne pas déplaire au catholicisme, on a moins tendance à enseigner aux enfants justement les hauts faits du passé. Les hauts faits des martyrs d'autrefois. Et cette perte de conscience collective fait que souvent, le jeune protestant est amené à se dire, puisque le catholicisme a évolué, il n'y a pas tellement de différence entre eux et nous, et il n'y a plus cette identification sur le plan sociologique. Là, c'est une étude, évidemment, uniquement sociologique, qui n'a rien, qui fait abstraction totalement du spirituel. Nous y viendrons juste à la fin de cette étude, finalement, ici, nous n'avons pas seulement affaire à des réalités de type sociologique, mais vraiment de type spirituel, dans ce sens que l'Esprit de Dieu peut bouleverser tout ça. Mais si on se tient simplement aux critères sociologiques, il est certain que l'avenir du protestantisme est sombre à cause de ces réalités-là. D'autre part, il y a aussi un autre point extrêmement important à souligner, c'est que la société française de tout temps, et la société française moderne plus particulièrement, n'est pas adaptée, a-t-elle jamais été, à l'esprit protestant. Comme le dit le doyen Carbonnier dans une très belle formule, aujourd'hui comme hier, le protestant est dans la société française l'étrange étranger. La conception qu'est la sienne de l'autonomie, de la décentralisation, de l'initiative personnelle, entre en conflit constamment et d'une manière permanente avec l'esprit français centralisé dont nous parlions tout à l'heure, enclin à la passivité, etc. Si bien que le protestantisme français se trouve devant le dilemme suivant, ou bien affirmer son identité, Et à ce moment-là, s'affirmer contre, s'opposer, ou bien s'adapter à la mentalité générale et perdre son identité. Et c'était là souvent le deuxième, la deuxième alternative qu'il adopte, tout simplement parce que justement il se trouve dans cette situation de micro-minorité qui fait qu'il n'a plus la force de s'affirmer contre. Le protestantisme est aussi considéré d'une manière assez négative sur le plan historique. Le protestantisme d'aujourd'hui est sympathique aux Français, mais le protestantisme d'hier ne l'est pas. Tout ici est en paradoxe. Disons tout à l'heure le protestantisme français sympathique, mais pas le protestantisme étranger. Eh bien, nous pouvons dire de la même manière, le protestantisme actuel est sympathique, mais le protestantisme d'hier ne l'est pas. Et ceci est tout à fait typique dans l'enseignement de l'histoire, ou du moins dans ce qu'il en reste. Et Richardot a fait une étude extrêmement intéressante à ce niveau, épluchant la plupart des manuels scolaires qui traitent de l'époque de la Réforme, de l'époque des guerres de religion, de la révocation des édits de Nantes, etc., pour voir comment l'histoire du protestantisme était présentée aux jeunes Français. Alors, bien entendu, quand on touche à des ouvrages scolaires qui ont pour but de se mettre au niveau de jeunes enfants qui n'ont pas la possibilité d'entrer dans des considérations trop complexes, il y a obligatoirement une simplification et une caricature. Mais justement, dit Richardot, le fait que l'on ait affaire à des simplifications est extrêmement intéressant parce que ça montre quelle est la conviction profonde de ceux qui font cette simplification-là. Par exemple, Richardot note que le modèle protestant de société est totalement répudié dans l'enseignement officiel de l'histoire, et ceci d'une manière systématique. Il a étudié, par exemple, la présentation du siège de La Rochelle. Le siège de La Rochelle est présenté comme quelque chose de tout à fait légitime. En fait, quelle était la raison profonde du siège de La Rochelle? C'était un désir de l'État français de détruire le protestantisme. C'était au moment de l'absolutisme, la montée de l'absolutisme français, avec Richelieu, et qui devait culminer avec Louis XIV, la centralisation de l'État français, qui n'avait pas toujours été aussi centralisée. Au Moyen-Âge, par exemple, contrairement à ce que l'on croit, le Moyen-Âge n'était pas une époque obscurantiste, mais c'était une époque où les gens avaient une très très large autonomie, une très large liberté. Il y avait par exemple des villes libres qui s'administraient d'une manière tout à fait autonome, bien souvent, par rapport au pouvoir central. Et la monarchie française, l'affirmation de la monarchie française, s'est fait contre, justement, cette autonomie dont avaient joui les sociétés au Moyen-Âge. Et automatiquement, le protestantisme était perçu comme un facteur de division au moment où l'on essayait d'unifier, entre guillemets, la nation. Unifier, c'est-à-dire uniformiser la nation. La vision française, comme la vision catholique, est la vision de l'uniformité. Et ça, c'est un débat qui reste très actuel aujourd'hui. Par exemple, au niveau de l'école, la querelle de l'école libre ou de l'école publique, n'est-ce pas? C'est exactement le même problème. École unique, parce que nous sommes dans un état unique, en quelque sorte. Admettre un dualisme scolaire, eh bien, c'est diviser la société française. Il faut qu'il y ait une uniformité totale. De la même manière que la vision de l'Église catholique, de l'œcuménisme, c'est l'uniformisation totale sur le modèle romain. On trouve exactement le même problème. Et ça commence avec Richelieu. Alors, à partir du moment où Henri IV, roi protestant, avait accepté de laisser subsister des non-catholiques dans son royaume, eh bien, il fallait donner à ces gens-là les moyens de subsister. Il fallait donc leur garantir une autonomie sur le plan politique, disons, sur le plan des institutions. Si cela n'était pas, Alors, du fait justement de sa situation de minorité, le protestantisme ne pouvait subsister. Et Richelieu l'avait bien compris. Quand il a voulu mettre fin à la République de La Rochelle, eh bien c'était pour mettre fin au protestantisme français. Or, quand vous lisez les livres d'histoire, dit Richardot, vous lisez exactement l'inverse. Vous lisez que Richelieu n'avait pas voulu s'en prendre aux protestants en tant que tels, mais simplement au pouvoir politique des protestants. Vous lisez que les protestants constituaient un État dans l'État, et ça vous retrouvez des affirmations modernes. À partir du moment où un groupe est considéré comme dangereux dans notre pays, c'est parce qu'il forme un État dans l'État, vous trouvez ça toujours. Et alors, par conséquent, il fallait mettre fin à cet État dans l'État. Par exemple, on lit ceci, les protestants étaient dangereux. On lit aussi ceci, les protestants avaient abusé des privilèges de l'édit de Nantes. Ils étaient devenus un parti politique, donc des rebelles. Des gens qui n'étaient pas loyaux à l'État français, au roi. C'est assez cocasse d'ailleurs de voir que c'est dans les livres d'histoire de la République anticléricale et anti-monarchique qu'on trouve ce genre de choses, n'est-ce pas ? L'État était incarné par le roi, ce roi qu'on a guillotiné, mais à l'époque c'était lui qui représentait l'État. Et le culte de l'État en France est quelque chose de terrible. Un autre chef d'accusation, c'est que les protestants de La Rochelle étaient les alliés de l'Angleterre. Bien entendu, ils cherchaient à s'appuyer sur ceux qui pouvaient leur apporter du secours. Mais il est certain que, par exemple, quand on lit la confession de foi dite de La Rochelle, qui n'a d'ailleurs pas été écrite à La Rochelle, qui a été dédicacée au roi de France, François Ier, le préambule dit ceci, « Nous voulons, Majesté, enfin c'est plus exactement les mots, vous faire connaître ce que nous, protestants français, ou français plutôt protestants, nous croyons, et nous vous affirmons par la même occasion que nous sommes des sujets extrêmement fidèles, extrêmement loyaux de votre majesté. » C'était tout le contraire de ce que les protestants pensaient. Mais là, c'était considéré par l'État centralisateur français comme une menace. Le fait de ne pas croire comme les autres, le fait de ne pas être comme les autres, le fait d'avoir des institutions qui étaient autres que celles de la majorité, était considéré, alors même que c'était une petite minorité, comme une menace intolérable qu'il fallait à tout prix écraser et à tout prix réduire. Et la cause de la révocation de l'édit de Nantes n'est pas autre chose non plus. N'a pas d'autre raison que cela. Par exemple, il y avait dans un ouvrage ce titre, « La prise de La Rochelle, deux points, la fin du danger protestant. Ah » oui. Les protestants avaient des privilèges politiques. Et puis toujours cette notion d'être un État dans l'État. Et la prise de La Rochelle a été vraiment cette marche irrésistible vers la constitution de l'État moderne, qui est associée encore aujourd'hui avec l'idée du bien. L'État moderne, c'est le bien. Par conséquent, on ne peut pas. Comment peut-on être persan ? Comment peut-on être différent ? C'est pas possible. Il est question de l'arrogance des protestants qui entraînaient des désordres publics à La Rochelle, etc., etc. Enfin, voyez le genre de choses. Dans le chapitre des guerres de religion, on retrouve aussi l'état d'esprit que nous soulevions, c'est-à-dire que les doctrines des protestants ne sont pratiquement jamais étudiées. D'ailleurs, il est assez rare de voir le titre « La réforme », mais on trouve plutôt le titre « Les guerres de religion ». La réforme en tant que telle n'intéresse pas. La réforme n'a d'incidence que dans la mesure où elle a entraîné des troubles religieux. Et par conséquent, on met l'accent justement sur ce fait. Les protestants, du fait qu'ils étaient protestants, ont entraîné des guerres dans notre pays. Et s'il y a eu cette période terrible de troubles, de massacres, etc., qui ont été les guerres de religion, c'est parce qu'il y avait des protestants, par conséquent, ils ont eu tort d'être des protestants, parce qu'il n'y en avait pas eu, il n'y aurait pas eu de troubles. Voilà la conclusion qui en sort. Donc, s'il y a eu des guerres de religion, c'est à cause d'eux. C'est eux qui sont responsables, en fin de compte. Ils ont brisé l'unité de la nation française. Ils ont brisé l'unité le consensus national, et ce sont des gens qui ont divisé l'opinion. Alors on ne prend pas en considération le fait que ça a été récupéré par des partis politiques, l'Église, la Ligue, ou au contraire les Valois, etc. Non, ça n'intéresse. On fait le court-circuit total là-dessus, n'est-ce pas ? C'est le protestantisme en tant que tel qui a été facteur de troubles et fauteur de troubles dans notre pays. Il est assez rare, par exemple, de voir noter que Calvin était français. Parce que Calvin ne peut pas être français dans l'esprit, dans cet esprit unitariste, parce qu'il a entrepris, il a entraîné justement une coupure, une cassure dans la nation. Alors on insiste sur le fait qu'il est allé à Genève, etc. Et pour beaucoup de jeunes Français, Calvin était un Suisse, tout simplement. Et l'école, disais-je tout à l'heure, est encore le reflet de cette vision. Le sectarisme de l'école, des tenants de l'école laïque aujourd'hui, c'est tout simplement le vieux sectarisme de Richelieu qui réapparaît. Cette fois-ci contre l'Église catholique, c'est assez curieux. On trouve cette idée du centralisme, n'est-ce pas, ce qui est une marque de l'esprit français, comme disait Pierre Fitte, le mal français. Pour ce qui est du règne de Louis XIV, alors en général, la révolte des Camisards est totalement occultée. Très rares sont les jeunes Français qui ont entendu parler de la révolte des Camisards, parce que ce n'était pas une période tout à fait glorieuse. Très peu sont ceux qui ont entendu parler de l'appauvrissement de la France à la suite de la révocation de l'édit de Nantes et de l'exode qui en a résulté. Et très peu ont ceux qui ont entendu parler, alors tout simplement, du protestantisme étranger. Voilà donc, si vous voulez, comment se présentent les choses. Qu'est-ce qu'on peut dire encore ? Oui, cela provoque de la part du protestant lui-même un certain nombre de réflexes. Un certain nombre de réflexes qui sont ataviques et que on adopte très vite en général. D'abord, effectivement, le protestant ne se sent vraiment jamais un Français à part entière. Il voudrait l'être, mais il se sent beaucoup plus toléré. Par exemple, les médias parleront volontiers de l'Église de France, sous-entendez l'Église catholique. Par contre, ils vous parleront des protestants français. C'est-à-dire, finalement, que le protestantisme n'est pas considéré comme quelque chose de vraiment national, de vraiment autochtone. Il y a des protestants en France, mais c'est une anomalie, en quelque sorte. L'Église de France est, bien entendu, catholique. Ça va de soi. Même pour des gens qui sont loin de toute considération religieuse, comme le sont souvent les journalistes. Mais ils vous parleront, l'Église de France a pris position en faveur de telle et telle chose, etc. Bon, vous comprenez, l'Église de France est l'Église catholique. Alors l'Église protestante n'est pas l'Église de France, alors. Mais dans la mentalité, non, finalement. Dans le subconscient, non. Bien entendu, si on discute avec eux comme ça, ils diront, bah si, bien sûr, mais dans le subconscient, non. Et ça, le protestant le sent. Et par conséquent, il essaiera souvent de donner des signes d'allégeance, qu'il est bien un Français comme les autres. Par exemple, les protestants français seront souvent beaucoup plus patriotes que les non-protestants. Par exemple, pendant la guerre de 1914, tout à fait typique de voir le grand nombre de Français, protestants français, qui sont morts, comme on disait, entre guillemets, pour la France. Il y a, par exemple, si vous allez dans des vieux temples, quand ils étaient construits avant la guerre de 1914, vous avez presque toujours à l'entrée du temple une plaque avec les noms de ceux qui sont morts pendant cette guerre de 1914, morts pour la France. C'était une gloire pour ces communautés protestantes de mettre en avant le grand nombre de morts qu'ils avaient eus pour la France, parce que c'était la preuve qu'ils étaient bien français. Ils étaient tellement français qu'ils n'avaient pas hésité à combattre une autre puissance protestante qui était l'Allemagne. Vous trouvez aujourd'hui la même chose dans les engagements politiques d'une grande partie d'un grand nombre de protestants, y compris l'engagement à gauche, etc., qui est une manière aussi de s'affirmer français et de faire de la surenchère à ce niveau-là pour montrer qu'on est bien français, on est bien intégré dans la communauté nationale. D'autre part, il y a ce désir de s'aligner sur la France globale et de cette tendance, n'est-ce pas, a un effet tout à fait négatif parce qu'elle pousse à l'assimilation, à la perte de l'identité, à la perte de la spécificité. Je parlais d'ailleurs de l'austérité protestante qui a été effectivement un fait jusqu'au début du siècle. Et puis soudain, les protestants se sont rendus compte qu'ils étaient considérés comme des gens austères et qu'on les reconnaissait à leur austérité. Alors ils ont balancé dans l'autre extrême. Et vous voyez, par exemple, chez les jeunes protestants, souvent, même chez des pasteurs, un langage ordurier, grossier, etc. C'est encore une fois faire de la surenchère pour vous dire ben, on n'est pas différent des autres. On est des Français comme les autres. Et ils sont tellement plus différents que finalement, ils perdent même ils sont le sel qui n'a plus de saveur, quoi. Voilà à quoi ça aboutit, et c'est extrêmement négatif, extrêmement grave. Par exemple, les mouvements de jeunesse protestants sont typiques de cette évolution. Je pense, par exemple, à un mouvement comme ce qu'on appelle la FEDE, Fédération des étudiants protestants, université et lycée, du second cycle, auquel j'ai milité en son temps, et qui ont été finalement en pointe dans les événements de mai 68, qui ont été amenés à renoncer à toute spécificité chrétienne. Je me souviens d'avoir quitté ce mouvement à ce moment-là, au moment où il avait été décidé que d'abord on ne ferait plus d'études publiques, uniquement des études littéraires, politiques et œcuméniques. Et après, on a même laissé tomber l'œcuménisme pour ne faire plus que de la littérature et s'occuper de questions politiques. C'est cette assimilation. Puis finalement, eh bien, les mouvements de jeunesse protestants ont disparu. La FEDE, on n'en parle plus aujourd'hui, parce que finalement, pourquoi continuer à se dire protestant si on est exactement comme les autres? La FEUF, bon, c'est ce qu'il en reste. Les colonies chrétiennes, les colonies de vacances protestantes, etc., bon, c'est pas brillant non plus. Et par conséquent, il y a une perte de toute la jeunesse protestante. Et la plupart des protestants sont des gens d'un certain âge, et souvent d'un âge certain. Quand on va dans les églises réformées, la moyenne d'âge tourne autour de 50 ans, au mieux, parmi les Benjamins, n'est-ce pas ? Alors il y a un gros problème à ce niveau-là, au niveau du renouvellement de la jeunesse. Une jeunesse qui souvent continue à se dire protestante, mais uniquement sociologiquement, et sans plus aucune référence à une foi ou à des croyances précises, mais uniquement à un vague passé ou à une vague appréhension des problèmes, sans que cela ne change plus rien à rien. Un autre aspect, un dernier aspect avant de conclure, c'est la mondialisation. Précisément parce qu'ils ne se sont pas intégrés dans la société française, parce qu'ils se sont menacés, constamment menacés. Une sécurité qui est certes une sécurité réelle aujourd'hui, qui n'est plus comparable avec l'époque des camisards ou autres, mais une sécurité qui reste précaire. Il est tout à fait intéressant de voir, par exemple, que la Fédération protestante a réagi très vivement au sujet des lois sur les sectes, parce que finalement, elle a senti instinctivement qu'il y avait là la même intolérance qui était celle de Richelieu, par exemple, et que très vite, cette attaque de groupes marginaux pourrait également déraper et se retourner contre elle, qui reste aussi un groupe minoritaire. Et alors, précisément, à cause de ce sentiment de menace permanent qui pèse sur elle, la communauté protestante de France a besoin de se sentir appuyée par les grandes communautés protestantes qui sont en dehors de la France. Il a toujours eu des contacts extrêmement étroits avec le protestantisme mondial, l'Allemagne, l'Angleterre, les États-Unis, les pays scandinaves en particulier. C'est vrai aussi souvent au niveau des familles. Les protestants sont souvent des grandes familles, et des grandes familles qui sont restées unies au-delà des frontières. Souvent, ces familles ont été dispersées, d'abord à cause d'exode rural, dont je parlais tout à l'heure, mais aussi parfois au-delà des frontières, d'abord au moment de la révocation des édits de Nantes. Beaucoup de familles protestantes ont émigré, bien entendu, vous le savez, à droite ou à gauche, en Allemagne, en Angleterre, aux Pays-Bas. Et malgré cette dispersion géographique, ces familles ont souvent gardé des liens étroits. D'autre part, le protestant est aussi quelqu'un qui Étant donné ses problèmes au niveau mariage, se marie facilement à l'extérieur avec des étrangers, des protestants étrangers. Si bien que vous avez, par exemple, des branches de telle et telle famille qui sont restées en France, alors où ils ont des cousins aux États-Unis, d'autres en Allemagne, d'autres en Hollande ou ailleurs, d'autres en Australie. Et par exemple, quelque chose de tout à fait intéressant, c'était de voir dernièrement comment notre ami M. de Beaulieu, que vous connaissez sans doute la plupart d'entre vous, le vieux pasteur qui se trouve en retraite à Lillemoine, qui lui est allemand, il est né allemand, n'est-ce pas? Mais sa famille était originaire d'ici. Ils se sont rassemblés, je crois que le West France en avait fait tout un article là-dessus il y a un an ou deux. Ils se sont rassemblés tous les deux Beaulieu qui venaient du monde entier, c'était tout à fait intéressant. Il y en avait qui ne s'étaient jamais vus ni d'Ève ni d'Adam. Ils se rencontraient à cette occasion pour revenir à leurs racines, revenir à leurs origines. Il y en avait qui venaient de tous les coins du monde. C'était la même famille, c'était la famille de Beaulieu. Alors, ça s'explique justement par ce sentiment d'insécurité qui caractérise les protestants. On part facilement à l'étranger, dès qu'on se sent menacé, quoi, hein. Alors, donc, quel est l'avenir du protestantisme français sur le plan sociologique? Eh bien, apparemment, sur un plan strictement humain, c'est un avenir sombre. C'est une réalité qui est amenée à disparaître à plus ou moins long terme. Et pourtant, eh bien, nous sommes ici un petit peu devant un phénomène qui échappe aux lois de l'histoire, aux lois de la sociologie, de la même manière que Louis XIV pouvait penser qu'il avait exterminé le protestantisme. Eh bien, en fait, son avenir est finalement entre les mains de Dieu. Son avenir est certes difficile, parce qu'il faudrait ajouter aussi toute la pression anti-religieuse qui s'exerce également sur le catholicisme. Mais le catholicisme, étant donné son importance numérique en France, peut se permettre de perdre des millions de gens qui se trouvent sécularisés, laïcisés, qui virent à l'athéisme. C'est évident que le protestantisme ne peut pas se permettre ce luxe. Alors, c'est un avenir sombre. Comment réagir face à cette situation? D'abord, évidemment, dans une dimension de foi renouvelée. Dieu peut changer les choses, un réveil est possible, certains diraient même un réveil est probable, à plus ou moins long terme. Comme le disait le doyen Carbonnier, Dieu peut encore agir et bouleverser toutes les données. Maintenant, il s'agit d'espérer et de croire, mais peut-être y a-t-il aussi un certain nombre de choses qui peuvent être faites. Et qu'est-ce qui peut être fait? Eh bien, comprendre les dangers qui menacent. Savoir s'accepter comme précisément cet étrange étranger et ne pas chercher à gommer cette différence, mais peut-être l'affirmer non pas d'une manière agressive, mais sans complexe. Et ce faisant, alors il y a un certain nombre de conséquences qui en découlent. Il s'agit de lutter contre un certain nombre de choses. D'abord, la diaspora du protestantisme, qui finalement se concentre à Paris, pour l'essentiel. Et là, on rejoint finalement une des grandes préoccupations de notre temps, justement, la décentralisation et la régionalisation. La Fédération protestante l'a compris, justement, qui a élaboré, qui est en train de mettre au point cette réalité, c'est-à-dire créer des communautés où les gens restent. Parce que le protestantisme, il y avait un autre phénomène qui jouait également, c'est que le protestant, homme du livre, homme de réflexion, ayant donc le goût pour l'étude de la Bible, mais le goût pour l'étude tout court, finalement, qui était intéressé par tout ce qui touchait à l'éducation et à la culture, était souvent un homme qui émergeait rapidement au point de vue intellectuel de la masse catholique. Et c'est la raison pour laquelle les protestants jouaient un tel rôle au temps de la Troisième République en particulier. Seulement, ce qui se passait, c'est que les élites protestantes qui se dégageaient ainsi au niveau, par exemple, de l'école communale, eh bien, étaient les premières à faire partie de cette diaspora. C'était ceux qui se retrouvaient ensuite dans les villes, à Paris, etc. Et le protestantisme, les terroirs protestants se trouvaient décapités de leurs élites. Et ça, c'est encore le problème aujourd'hui. Encore le problème aujourd'hui pour les élites protestantes se retrouvent à Paris. N'est-ce pas? Alors il faut lutter contre cette tendance. Un retour au pays, en quelque sorte, crée des communautés où l'on reste, où les jeunes restent, qui ne sont pas des tremplins vers un avenir sociologique plus important, mais où l'on reste. Deuxièmement, lutter au niveau de l'éducation. Redonner aux jeunes une éducation véritablement protestante, c'est-à-dire chrétienne, biblique tout simplement. Redonner aux enfants une conscience d'appartenir à une communauté qui a un passé, qui a une identité, et comme le dit Richardot, à un peuple protestant. Prendre conscience qu'il existe un peuple protestant français. Et troisièmement, et ça, ce n'est pas la moindre des choses, lutter pour le maintien de la liberté. La liberté que le protestantisme français a conquis au temps de lutte, au prix de tant de luttes, de sang, de martyrs, etc. Et que la société moderne, consciemment ou inconsciemment, a tendance à rogner, à grignoter. Par exemple, ce sont les protestants français qui ont instauré le jeudi, à l'époque de la Troisième République, le jeudi qui était férié, enfin où les enfants ne travaillaient pas, n'allaient pas à l'école, et ce n'était pas du tout pour leur permettre d'aller faire du patin à roulettes ou de la planche à voile, mais pour leur permettre d'étudier la Bible. C'était le jour qui était consacré à l'enseignement religieux. Bon, aujourd'hui, dans la mesure où l'enseignement religieux, ça n'existe presque plus, bon, on a tendance à supprimer ça, on parle de supprimer le mercredi maintenant pour faire le long week-end à partir du vendredi, etc., pour permettre aux gens de partir en week-end. Bon, c'est pas toujours de la mauvaise intention de la part des pouvoirs publics, mais c'est parce qu'ils oublient que là, il y a une composante qui doit être respectée. Alors, il y a tout un combat à mener à ce niveau-là aussi, au niveau du respect de la liberté en général, et la liberté religieuse en particulier. Ça, le problème des sectes aussi s'inscrit dans ce contexte-là. Alors voilà les trois points essentiels dont dépend ici la survie du protestantisme français, en dehors de cette intervention d'Esprit de Dieu, et finalement de ce réveil qui est celui qui pourrait vraiment bouleverser encore une fois toutes les données. Voilà, est-ce que vous avez des questions à poser ?